Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM, 17h30, 5h30.
Il est 20h sur Radio Campus Paris et ça y est, le mois des fiertés est terminé. Rangez vos drapeaux, ravalez vos paillettes et remballez vos jogstraps. Il est de nouveau interdit d'être LGBTI+, ou en tout cas, c'est plus vraiment à la mode. Et je dis ça en plaisantant qu'à moitié. Vous vous souvenez quand la blague c'était de parler de toutes ces entreprises qui, dès le 1er juillet à minuit, faisaient disparaître de leurs réseaux sociaux leur logo aux couleurs de l'arc-en-ciel? Vous vous souvenez quand le pinkwashing avait chaque année une date de péremption? Eh bien, il faut croire que cette année, défendre les droits des personnes LGBTI+, n'est plus vraiment bankable. Dans les colonnes de Time Out Paris, je lis carrément que la queerness n'est plus rentable. 2 entreprises sur 5 auraient réduit leur engagement pour la Pride 2025. Dans le monde de la mode, notamment, les collections Pride brillent par leur absence cette année, et c'est une première. Alors que le backlash anti-LGBTI+, ne s'est jamais fait ressentir aussi fort partout dans le monde, le marché a choisi son camp, et évidemment, n'est pas celui de la résistance. Alors, ironiquement, on s'en désole, nous, queeros, qui avons à cœur de ne pas être récupérés par le capitalisme, nous qui valons mieux qu'un arc-en-ciel sur une paire de chaussures confectionnées par un enfant ouïghour. C'est tout le paradoxe du pinkwashing, en fait, on a beau lutter contre, on sait que tant qu'il existe, c'est que c'est encore largement bien vu et donc rentable de nous défendre, de défendre nos droits et nos dignités. Alors, le queer n'est plus à la mode, tant pis, peut-être tant mieux. Cette année, la Pride de Budapest, que le premier ministre hongrois a tenté d'interdire, a rassemblé 250 000 personnes. La Pride de l'inter-LGBT, elle, qui s'est vue retirer une subvention par Valérie Pécresse pour une histoire d'affiche un peu trop antifasciste, a vu défiler 700 000 personnes, un record. Comme quoi, quand nos fiertés vont plus loin que des slogans publicitaires fades, quand nos luttes passent devant les intérêts financiers et quand nos voix crient plus fort que les fachos, elles rassemblent encore. Mesdames, messieurs, toutes les personnes entre et au-delà, il fait très chaud, mais on est ensemble jusqu'à 21h. Soyez les bienvenus.
Salut le lobby, ça va le lobby ?
Assez de société qui ne respecte pas les sensibilités.
5 syllabes, visibilité.
S'il vous plaît, je suis lesbienne.
Les questions LGBT sont pas des questions à part.
Ouais, c'est parce que je pense pas que ce soit qu'une affaire privée en fait.
Je pense que la parole doit être surtout donnée aux personnes concernées.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
On n'a pas des petits, les hommes sont dans la rue.
Ça n'a pas de rapport, mais je suis un tout petit peu hétérophobe.
On est des bad bitch.
Enfin, pardon, je parle mal là, mais...
Je raisonne jamais en termes d'espoir, je raisonne en termes de ce qu'on peut agir.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Et allez, on est parti pour une heure de radio en direct par et pour les queers et celles aussi qui ne savent pas trop. Prenez place autour de la table du lobby où une fière équipe vous attend. Zoé, Aglaé et Alexis sont avec moi ce soir. Bonsoir à vous trois.
Hello.
Salut.
Zoé, comment ça va?
Ça va super, et toi?
Tu viens de brancher ton micro in extremis. Je suis désolée s'il y a eu un bruit dans les oreilles de nos auditeurs. De quoi tu nous parles tout à l'heure dans ta chronique, Zoé?
Je vais vous parler de la collective Bye Bye Binary qui sort sa revue.
Intéressant, Bye Bye Binary, c'est un petit peu ta marotte.
Parce que, c'est un peu ma marotte. Hein,
on va en parler tout à l'heure. Aglaé, comment ça va toi?
Ça va super parce que le studio est climatisé.
Oui, et profites-en voilà. Parce que c'est la dernière fois qu'on te voit cet été. Après, tu pars vivre ta vie très loin.
Très
de
loin.
Quoi tu nous parles ce soir?
Je vous parle de la saison 2 de The Ultimatum Queer Love qui est sortie la semaine dernière.
Sur Netflix.
Sur Netflix. Et de nouveaux épisodes vont sortir demain, je crois.
Et donc de nouveaux dramas. Et puis un
tout
petit nouveau est avec nous aussi. Salut Alexis.
Salut.
Comment ça va?
Ça va plutôt bien, écoute.
Ça fait plaisir de t'accueillir. T'es un peu en observation ce soir.
Exactement, j'ai un peu l'impression de venir en touriste, on a cette petite fille, j'ai tout, et puis bon, moi, il n'y a rien devant moi.
Voilà, les hommes, comme d'habitude. On espère qu'il reviendra la semaine prochaine, quand même, donc faut pas lui faire peur. Et pour nous accompagner jusqu'à 21h, chaque semaine du mois de juillet, une star sera avec nous dans ce studio. Et c'était l'un de nos coups de cœur musical lors de la saison précédente, elle était même venue nous chanter sa chanson Cherry Pop dans ce même studio. Un coming out trans plus tard, elle est de retour avec de nouvelles chansons plus cunt que jamais, exactement ce qu'il nous fallait pour commencer l'été sur de meilleures bases. Cherry est notre invité jusqu'à 21h.
Le lobby, Radio Campus Paris.
Allez, le lobby, c'est une émission pour tout le monde et même pour les vilaines garçons.
J'ai le sang qui dort tout au fond de mon corps. J'ai peur de ma bouche et toi les frappes. C'est pire que la mort, possédée par le diable. Souvenir de moi et je me Len.
garçons.
Écoutez Radio Campus Paris et vous avez bien raison puisque vous venez peut-être d'y découvrir la chanson qui va hanter vos playlists de l'été si elle n'y figure pas déjà. Et vous avez encore plus de la chance puisqu'avec nous, la star qui est à l'origine de ce titre est là, Vilaine Garçon. Bonsoir chérie.
Hello.
Comment ça va? Sois la bienvenue.
Ça va super bien, il fait très chaud mais ça va. Heureusement dans le studio ça va.
Ça va encore pour l'instant et puis oui. Parce qu'on est que 5, on a fait des émissions, on était 12 et oh franchement au bout God. De la première pause musicale on était déjà dans un certain état donc tu t'en sors plutôt pas mal. On va parler de cette chanson d'abord, Vilaine Garçon. Comment est-ce que tu l'as écrite? Quel est le point de départ?
Le point de départ de la chanson, c'est on est en studio avec Isid 99, on ne sait pas trop quoi faire. Le projet Chéri Pop vient de sortir, je me dis à quoi doit ressembler la suite, je n'en sais rien. Et lui, il donne des noms chelous à ses prods. Genre, donc des fois, quand j'arrive en studio, il est en genre, est-ce que celle-là, elle te plaît? Celle-là, elle te plaît? On écoute. Et là, il me fait écouter un truc et je vois sur son dossier qui s'appelle Vilaine Garçon. Je suis genre, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me fait écouter la prochaine, genre, ok, c'est pour moi. Et je vais garder Vilaine Garçon. Donc, j'ai commencé à écrire cette chanson. Il y a plein de gens qui sont en genre, elle parle de quoi? Elle parle de ça? Ils vont vraiment. Il y a des gens qui m'envoient des DM en mode genre, ils disent des trucs archi poétiques sur le texte. Et moi, je suis genre, non, c'est juste à propos de rêves érotiques récurrents avec la même personne. Et j'arrivais plus à m'en sortir. Je rêvais tout le temps de ce type que j'ai jamais rencontré de ma vie. By the way. Et en fait, même des fois, je m'endormais le soir et je suis genre, mais est-ce qu'il va encore revenir cette nuit? Genre, I'm tired, leave me alone.
Ah oui, c'était vraiment pas agréable. Need to
si, au début, si. Et puis au bout d'un moment, je suis genre,
ça devient bizarre.
Du coup, bon, j'ai fait une chanson sur ça, c'était fun. J'avais besoin de faire un truc fun, j'en avais marre de faire des trucs soit tristes, soit très poétiques, soit très engagés, où j'avais vraiment envie de faire un truc genre fun.
Oui, parce que j'allais te demander comment ça s'est passé de revenir à l'écriture, alors visiblement assez vite après la sortie de Chéri Pop, mais qui était déjà un EP dense, on va en reparler tout à l'heure, avec beaucoup de collaborations, des titres très dansants, enfin, on sent que t'as mis beaucoup de toi déjà dans cet EP. Comment ça s'est passé de revenir en studio et de te dire, allez, on est reparti, quoi.
Let's go back. Bah, en vérité, je suis tout le temps en studio, même quand je suis en train de sortir des projets, j'arrête jamais d'aller en studio, à part quand vraiment je suis plus du tout inspirée. Mais celle-là, c'était assez particulier. Je savais plus trop quoi raconter après Cherry Pop, je savais plus trop quoi dire. Après, j'ai été aussi frappée par un mur dont on parlera tout à l'heure, mais qui a été ma transidentité, et il a fallu parcourir tout ça avant de savoir ce que je voulais raconter, de savoir à quoi allait ressembler ce projet. Donc, tout s'est fait un peu en même temps. Et c'est Vilaine Garçon, la première chanson qu'on a composée pour ce projet-là, qui a donné un peu la couleur de tout le reste, quoi. Mmh.
Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots à quoi on doit s'attendre ? Est-ce qu'on va rester sur des titres aussi dansants dans les prochaines sorties ? Est-ce qu'on peut s'attendre à des chansons tristes ? Parce que tu sais un peu tout faire de ce point de vue-là. Il y a des chansons très tristes, très belles que tu as sorties sur tes EP précédents.
Écoutez, à la fin de la journée, je suis cancer et je resterai cancer. Donc, il y a des chansons très tristes dans cet album aussi. Mais bon, c'est quand même des chansons... Même les chansons tristes, elles ont vraiment une connotation très électro-techno. Ouais. On a travaillé un son encore plus club que celui d'avant.
Okay.
Donc, je pense que ça va. Il y a du reggaeton aussi.
Oh bah donc, on a hâte de découvrir ça. Alors peut-être encore plus qu'avant, ton projet Chéri s'accompagne d'une identité esthétique très forte. Comment est-ce que tu la définirais en quelques mots ?
J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. J'ai eu le temps en même temps. Hein. Ça fait deux ans que je n'ai pas sorti de chanson. J'ai beaucoup, beaucoup pensé, réfléchi, souvent l'été d'ailleurs, by the way.
Mm-hmm. Donc là, tu étais en pleine réflexion déjà.
On ne sait pas. Je sors du studio. j'ai eu le temps de beaucoup réfléchir à l'image que je voulais avoir. Ouais. Il fallait que je fasse un truc très esthétique avec cette musique. J'étais obligée de penser très fashion, de penser très tableau. Et y avait tout ce qui se passait aussi pour moi dans ma vie personnelle. Il y avait ces changements qui ont mis beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup de réflexion. Mmh. Et puis ensuite, qui ont commencé aussi dans la pratique, si je puisse dire, les hormones et tout ça. Il y a eu un premier shoot qui a été fait en plus... Un premier shoot presse qui a été fait en octobre, mais j'avais pas commencé les hormones parce qu'on pensait que le projet allait sortir en février. Ah. Là, je vous rentre dans les coulisses.
Les backstage.
Et au final, tout a été décalé et moi j'ai commencé les hormones en janvier et du coup je vibrais plus du tout avec ce photoshoot qui a été genre un espèce de brouillon de ce qu'on a aujourd'hui, sans disrespect du tout les personnes qui ont travaillé dessus. En même temps, c'était ma DA, donc je me disrespecte moi-même. At the end of the day. J'avais envie, avec Vilaine Garçon, je sais pas pourquoi, j'avais envie de revenir avec un truc qui racontait esthétiquement la transidentité, un parcours de transidentité M2F, et j'avais envie que ce soit fashion et glamour et impactant, donc j'ai glamourisé, fashionisé la FFS.
C'est quoi la FFS, pardon ?
Facial Feminization Surgery.
Mais justement, c'est intéressant parce que le 27 juin dernier, tu as partagé la scène avec Bilal Hassani, Janice, Lala Rami et Tony Zola au cours d'un événement privé, je crois.
Privé-public, c'est privé sur Aura.
Qui était baptisé Dream Dolls. Donc doll en anglais, ça veut dire poupée. C'est aussi maintenant une esthétique dont plusieurs artistes, et notamment des femmes trans, se revendiquent. Qu'est-ce qui, toi, t'inspire dans cette esthétique doll ? Qu'est-ce qui est peut-être émancipateur aussi là-dedans ?
Ça permet vraiment de explorer la féminité. Genre, c'est bizarre de commencer à explorer sa féminité. Donc, moi, je pense que je vais un peu de partout. Je ne sais pas encore quelle femme je suis, comment elle s'habille. Je ne sais pas tout ça. Je découvre et je trouve que cet archétype doll permet d'être assez protégé dans cette recherche, en tout cas, je trouve, pour nous.
En fait, je te pose aussi la question parce que moi, ça m'a fait penser à un post Instagram d'une militante trans qui s'appelle sur les réseaux Mithildid. J'ai pas retrouvé son vrai nom. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et elle dit que dans leur représentation, les femmes trans, elles sont un peu prises dans un étau entre d'un côté des représentations qui insistent sur des traits considérés comme masculins, donc une mâchoire un peu prononcée, une pomme d'Adam, etc. Et de l'autre, des représentations hyper féminines, voire à la limite infantilisante. C'est ce qu'on peut voir dans de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux. Et ironiquement, ces représentations, elles ne sont pas forcément réalisées, voire rarement avec un prisme transphobe, puisque souvent, il s'agit plutôt de dire on peut avoir une pomme d'Adam et être une femme, ou on peut être une femme trans et correspondre aux attendus classiques, entre guillemets, de la féminité. Et Mathilde, elle conclut en disant, en fait, c'est pas acceptable que la présence dans l'espace public des femmes trans soit conditionnée au rappel de leur masculinité originelle, entre guillemets, et c'est pas acceptable non plus que l'attrait de la féminité soit forcément suspect. Comment est-ce que toi, tu navigues dans ces injonctions contradictoires, être féminine, mais pas trop, etc.
Je suis vraiment dans la recherche de qui je suis, moi. Je réfléchis pas trop à tout ce qui m'entoure et à tout ce qui est pas à l'intérieur de mon parcours. Alors évidemment, j'échange beaucoup avec mes copines, avec mes sœurs trans et tout ça. Et on en parle beaucoup, elles me donnent plein de tips et tout. Mais moi, je suis vraiment à la recherche de qui je suis, ce que j'aime, comment est-ce que j'aime m'habiller. Après, j'ai aussi la chance d'avoir un personnage qui est Sweet Chérie pour explorer tout ça dans un endroit scénique et du coup un peu over the top aussi. Je sais pas, c'est beaucoup de...
Il y a des concerts déjà dans lesquels tu as pu un petit peu explorer ça. Je pense que récemment, tu as fait la première partie d'Olivia Ruiz.
Ah ben justement, j'avais pas commencé encore vraiment mon parcours. J'avais besoin d'en parler à ma famille, j'avais besoin d'en parler à mes proches avant de me présenter au monde comme ça. Non, il y a eu Dream Dolls qui était
le 27
et attends, il me semble que j'ai performé une autre fois, je me souviens pas. Non, mais ça va être les débuts là.
Ouais.
Bah là, vendredi, c'était la première fois que je performais en talons. C'est horrible, je ferai plus jamais.
Mais c'est quoi, c'est excitant, c'est stressant un peu?
C'est super excitant. Ouais. Bah après, j'ai toujours aimé la scène, j'ai toujours aimé qui j'étais sur scène et c'est un endroit qui a été un endroit d'expression pour moi depuis toujours. Mais là, je m'exprime en étant vraiment moi-même, c'est très étrange. Il y a des moments où je suis genre, oh, what?
Tu as publié récemment sur ton compte Instagram une photo avec le texte « Créature, levez-vous, arrachez le cœur à vos poitrines et marchez. Le soleil est tombé sur le sol, à présent l'enfer est aux cieux. Que faut-il comprendre ?»
Ce qu'il faut comprendre... Quand j'ai entamé la réflexion, enfin quand j'ai ouvert la porte à la réflexion, parce que la réflexion
sur ta transidentité, tu veux dire, ou sur,
c'était il y a 2 ans, juste avant un été où j'ai eu la très mauvaise idée d'aller garder la maison de mes parents toute seule et d'inviter personne. Je me suis retrouvée toute seule pendant 2 mois et ça allait pas du tout. Ouais. Vraiment, j'arrivais au bout de ce que je pouvais proposer dans ce corps-là et c'est difficile. Il y a vraiment 2 portes quand tu arrives à cette réflexion-là. Et sans être dramatique, elles ne sont pas très joyeuses, les 2 portes. Je me suis mise à écrire. J'avais besoin d'écrire parce que je me disais, là, il se passe trop de choses dans ma tête. En fait, j'allais exploser tous les matins, tous les soirs. Donc, j'ai commencé à écrire plein de choses. Et j'ai écrit ce poème. C'était plus... je sais pas si on explique les poèmes, mais pour moi, on est un peu perçu comme des monstres, on est un peu perçu comme des personnes à part dans cette société. On dit de nous qu'on ira en enfer. Et moi, c'est une façon de dire non, je crois qu'en fait, ce qui est raconté dans la société, c'est à l'envers. Et c'est pas eux qui iront au paradis, c'est nous. Et c'est eux qui iront en enfer, c'est pas nous. C'est plus ça.
Et c'est peut-être quelques indices pour les prochaines chansons qu'on va découvrir.
Absolument, c'est même un indice sur le titre.
Bon, très bien. Donc, il faut aller voir ce post Instagram. Petit retour en arrière, chérie, pour les auditeuristes qui ne te connaîtraient pas encore.
Quand l'ombre s'en mêle, tout se démêle, je respire, je sais, je sens. Viens juste un instant. Pas besoin d'être des amants. J'ai des vagues dans le système et je traîne, je peine, je saigne. J'ai des vagues dans le système et je roule, je bouge, je douille. J'ai des vagues dans le système, je trouve quand même que la vie est belle.
Chérie, on est en 2021, cette chanson s'appelle Vague. C'est quoi l'histoire de cette chanson? Je t'ai vu dire oh my god quand la chanson a commencé. C'est désagréable de l'entendre ou
non? Mais je l'ai pas écoutée depuis très 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 longtemps. C'est quoi l'histoire de la chanson? C'est vrai. Merci. Il faudrait que je la réécoute. Je sais plus. Je vibre plus trop avec cette chanson, mais elle a une histoire quoi. c'est ma première chanson, c'est mon premier single. C'est la première chanson que j'ai écrite même en chérie. J'avais envie de reprendre la musique, j'ai eu des problèmes de cordes vocales, j'avais dû arrêter très, très subitement. Et puis un jour, j'ai juste appelé un pote qui faisait de la prod et je lui ai dit vas-y, viens, on fait du son, mais j'ai avoir besoin vraiment que tu m'entoures parce que je sais pas ce que je veux raconter et j'ai très peur. Et du coup, on s'est retrouvé en studio, on a fait cette chanson que j'ai sortie une première fois en indé pendant le confinement. Et en fait, au sortir du confinement, ma vie a complètement changé parce que j'ai signé avec Rocinante, Sony Music. Et moi, j'étais genre, what the hell? Moi, j'étais actrice, je faisais du théâtre. Enfin,
ouais. Des comédies musicales aussi. Des comédies musicales aussi.
Et du coup, là, j'étais genre, ok, this is the big world. Je me retrouve dans les bureaux de Sony. J'étais genre, qu'est-ce que c'est que ça? Et voilà, bon, c'est un peu ça l'histoire de la chanson.
Voilà, qui est ressortie en 2021. Et puis en 2021, tu sors aussi cette pépite. Quiero comerte, j'ai fait allemand deuxième langue, pardon. Pour moi, un de tes meilleurs titres, franchement. Et je crois que t'en es assez fière aussi.
Oui, je l'adore.
Comment on fait pour continuer à écrire après avoir sorti un tel banger?
J'en ai pas trop conscience, mais en vérité, oui. En fait, je me rends compte à chaque fois que je la performe qu'il y a plein de gens qui la connaissent, en fait. Ouais. Et même des gens qui savent même pas qui je suis connaissent la chanson. On l'a fait très tôt dans le processus de travail de cette EP. Donc en fait, ça a été très facile de retourner en studio après ça parce qu'elle n'était pas encore sortie. Par contre, quand j'ai sorti mon premier EP, après, j'arrivais plus à écrire. Parce que j'ai réalisé que les gens, ils écoutaient. En fait. Je pouvais pas dire ce que je voulais.
Tout à coup. Je sais pas trop où j'en suis dans ma feuille. Tu chantes aussi en espagnol sur cette chanson et sur la précédente aussi, je crois. C'est une de tes langues de naissance, c'est la langue de ton papa. Est-ce que ça te plaît comme ça, de passer d'une langue à l'autre? C'est important?
Oui, ça me fait du bien. J'aime bien marier ces deux langues. Après, là, sur le prochain... Je peux pas dire que ça m'a été reproché, mais c'est pas facile à vendre, en vérité, je crois. Du coup, sur le prochain qui arrive, je crois qu'il y a moins ça, quand même. Il y a moins français, espagnol. Okay. Il y a plus français.
Tu restes quand même, je crois, très inspiré par tout ce qui est pop espagnol, et même sud-américaine. On pense forcément à Rosalia, mais je pense que t'as plein d'autres références à nous donner.
Ouais, Bad Gal, Rudelin, Ralphicio, Rusovski. Bueno.
Mirame, on écoute vraiment quelques secondes, mais c'est pour donner un petit peu l'eau à la bouche aux auditeuristes. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ces chansons, cette chanson Mirame et Quiero Comerte, je ne sais même plus. Elles font partie d'un EP qui s'appelle Pour te toucher, qui est sorti en 2022. Voilà, quel regard tu portes sur elles maintenant?
Je les aime beaucoup. Elles ont été composées avec des gens qui me sont très 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 chers, dont une personne qui est partie aujourd'hui, qui n'est plus là. Et donc ça m'émeut, je les aime beaucoup, ces chansons. C'est des souvenirs maintenant.
Et puis en 2023, nouvelle era, celle de Cherry Pop, avec, je le disais, des collaborations tout à fait remarquables comme celle-ci.
Des moments parfois et le cœur, tout déborde de l'intérieur, des torrents de larmes, torrents de larmes. J'ai pleuré jusqu'à ce que tu te noies. J'ai mes peurs, tu me dévores de l'intérieur. Des torrents de larmes, j'ai nagé dans les eaux des enfers. Non, même pas le savoir, todo lo que piensa de mí. Lo que piensa de mí. Ton regard sur moi me pèse et pourtant ne me
Torrent de larmes, une chanson qui, avec une magnifique montée en puissance. En duo avec qui, nous demande Aglaé. Alors, réponse chérie.
Avec Johanna.
Comment elle s'est faite cette rencontre avec Johanna? Rencontre au sommet,
ouais. Qui aujourd'hui ma bestie.
On l'embrasse.
C'est une immense rencontre pour moi. J'étais fan, j'étais archi fan. Et j'arrêtais pas de demander à son management, à son label. Et en fait, un jour, on était toutes les deux invitées à chanter avec Alika à son concert, parce que j'avais invité avec Alika et elle aussi. Ouais. Et on a passé la journée ensemble, après avoir fait les ballons et tout. Et on s'est grave entendu, on était genre, vas-y, viens, on se fait en studio la semaine prochaine. Et la rencontre en studio a été immense. Et voilà, maintenant c'est...
Et effectivement, ouais, y a une collab avec Kalika et une autre avec Lord Esperanza. C'est des bangers aussi, à mes yeux.
Avec Chilla aussi.
Avec Chilla, oui, c'est vrai que j'ai pas noté. C'est sur Cherry Pop aussi?
Non, c'est single d'après. Ouais.
On va pas pouvoir l'écouter là tout de suite, mais effectivement, il faut absolument que les auditeurs aillent jeter une oreille. Oui. Je pense qu'il est un peu trop tôt pour que tu nous dises s'il y a des collaborations sur le futur album, sur le futur
EP. Il y en a, bien sûr, mais j'ai pas envie de dire qui c'est.
Est-ce que tu peux nous dire avec quel artiste tu rêverais de travailler?
Ah, ça change tout le temps. Je dirais là, aujourd'hui.
Tu peux en dire plusieurs.
J'ai envie de dire un truc. En vrai, j'aime trop Cat Eye.
Ok.
Ah ouais. C'est K-pop.
C'est grave K-pop.
Moi, je suis très branchée K-pop.
Je suis passionnée.
Mais t'es de plus en plus éclectique alors, parce qu'en plus,
grave éclectique, oui.
Il y a du reggaeton aussi. Oui. Là, on parle de K-pop.
Ah oui, mais avant, j'étais snob. Maintenant, j'aime peut-être McRae et tout. Maintenant, j'aime bien.
J'ai vu dans une interview de Move que tu disais, mais j'adore Jul maintenant.
Oui, grave. J'aimerais trop.
Très bien, on note. Il y a quelques semaines, sur ton compte Instagram, tu as publié plusieurs covers, dont celle-ci.
Viens avec moi de l'autre côté, accroche-toi, on va traverser, retiens ton souffle si tu peux, ne t'arrête pas, ferme les yeux.
Reprise tout en douceur de La Rivière de Pomme, une chanson qui parle aussi de son identité queer et de comment on peut s'y réfugier. Retrouve-moi à la rivière, j'ai ramassé les plus belles pierres, envole-toi si tu préfères, je reste là, les bras ouverts. L'exercice de la reprise, je crois que tu aimes t'y confronter. J'ai retrouvé même une reprise de Désenchanté, oui, de la reine Mylène Farmer.
Mais t'es allé loin.
On travaille.
Ça donne envie de l'écouter.
J'aime bien ça. Bah, surtout quand je sors plus rien, j'ai envie de continuer à faire des choses. Ce texte de Pomme, je le trouve tellement beau. J'avais trop envie de reprendre cette chanson depuis longtemps. Après, je voulais le faire sur scène. Au final, c'est fait comme ça. Je suis très contente. Pomme a liké.
Wow. Ouais.
Pomme a liké.
Le flex. Et puis donc en janvier dernier sur tes réseaux sociaux il y a eu ce coming out trans. Tu dis que c'est un processus qui a été accompagné par l'écriture. Je sais pas s'il y a un texte en prévision, en publication.
We'll see about that.
On verra. Est-ce que la lecture aussi c'est quelque chose qui t'a accompagné? On a mentionné Janice tout à l'heure, Janice Sarraoui, oui. Qui a écrit Révéler mes visages, un livre témoignage co-rédigé avec Talma Desta qui est sorti chez HarperCollins. Tu disais aussi que t'entourer de tes sœurs trans, ça t'avait beaucoup porté. Est-ce que c'est ces témoignages, ces autres voix, c'est comme ça, les
oui,
lire,
carrément,
ça fait du bien?
Carrément. On se connaît bien avec Janice, on s'aime beaucoup. Pour la petite histoire, d'ailleurs, j'étais allée du coup à la soirée de lancement de son livre et j'ai pris mon petit livre, je suis allée à sa table et tout. Elle est une des premières personnes à qui j'ai glissé dans l'oreille, je commence les hormones bientôt. Et elle fait genre, on va boire un café la semaine prochaine.
Adorable. Alors chérie, tu le sais, et vous le savez aussi, chers auditeurs, dans le lobby, on reçoit régulièrement des artistes qui viennent se produire en live, comme toi par exemple il y a 2 ans, dans notre studio ou bien lors de nos émissions spéciales. Et à cette heure-ci, dans nos émissions d'été, je vous propose d'en réécouter certains. Est-ce que tu connais Louise Bisou, Louise BSI?
Bien sûr.
Bah évidemment. Et bah je te propose qu'on écoute un live de son titre Trop bonne, trop conne.
Yay. Yeah.
Vous aviez raison, j'ai pas toujours été hot, pas
toujours été comme. Il m'a fallu des années, du travail et du temps. Si ça continue comme ça, RTV dans 100 ans, pas de retour à zéro. Maintenant je suis trop doué. La bisou est à vendre, son nom est sexualisé. Ouais, je vais tout raser. Je vais commencer par mes jambes, le reste on verra après. Quand on voudra m'entendre. Trop pomme, trop comme, c'est ma valeur ajoutée. Trop pomme, trop comme, c'est le projet. Trop pomme, trop comme, toujours fraîche à l'arrivée. Trop pomme, trop comme, trop pomme, trop trop. C'est ma valeur ajoutée. Trop pomme, trop comme, c'est le projet. Je n'ai jamais rien signé. Trop bonne, trop conne, c'est le projet. Trop bonne, trop conne, toujours fraîche à l'arrivée. Trop bonne, trop conne, trop bonne, trop trop. Je n'ai jamais rien signé.
Et bah, léger problème technique sur ce live de Louise Bizou, mais je vous jure qu'en live, c'était pas vraiment comme ça. Vous pourrez écouter en tout cas notre émission au Festival Bizarre à La Folie. C'était le 4 mai 2023 et 20h31 sur Radio Campus Paris. On est toujours avec Chérie. Ça va, Chérie ?
Ça va très bien.
On est toujours ravis de t'avoir avec nous dans le lobby. J'en ai parlé tout à l'heure, le 28 juin dernier, c'était la Pride à Paris. Est-ce que tu y étais, toi ?
Oui.
C'était bien ?
C'était bien. Moi, ça m'a fait du bien. Je voulais pas y aller.
Pourquoi ?
Mais bah parce que j'avais trop fait la fête. Déjà. Mais non, c'était vraiment bien, ça m'a fait du bien. J'ai senti que les gens étaient heureux d'être là. Je sais pas, il y avait un truc qui était vraiment important, je trouve, cette année quand même.
Par rapport, tu veux dire, au contexte politique ou
bah, ça m'a tellement saoulé le truc de l'affiche et tout. J'avais envie de venir. J'avais envie de me battre, moi. J'ai envie de me battre avec des fachos.
Alors, justement, parlons-en, puisque cette Pride, elle s'est pas faite sans critique. Si d'un côté, certaines regrettent la disparition des chars depuis 2023, qui rendrait le défilé moins festif, d'autres, comme chez Dupin et des Roses, qui est un peu l'émanation féministe et queer du parti Révolution Permanente, dénoncent une marche qui n'est toujours pas assez politique à leur goût. Preuve en serait, selon une militante qui s'est exprimée sur le compte Instagram de Dupin et des Roses, le fait que les systèmes sons viennent couvrir les slogans anticapitalistes et anti-impérialistes, et puis la présence du FLAG, le syndicat des flics LGBT sur lequel nous nous écharpons chaque année, enfin pas dans cette émission, mais je veux dire à l'échelle de la communauté. Pour rappel, l'inter-LGBT qui a longtemps été critiqué pour ses mots d'ordre assez mous et le caractère souvent assez apolitique de ces événements, a cette année voulu une marche, c'est à ça que tu faisais référence chérie, contre l'international réactionnaire et son affiche qui a fait notamment figurer un drapeau palestinien et puis un homme, seul protagoniste en noir et blanc représentant donc a priori cet international réactionnaire en mauvaise posture. Cette affiche a beaucoup fait parler d'elle et la polémique a tant enflé que la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a décidé donc de retirer la subvention de la région accordée à l'inter-LGBT. Et enfin, le groupuscule homo-nationaliste Eros, pardon, donc un petit peu les frères d'armes, les cousins du collectif fémo-nationaliste de Némésis, est allé chouiner auprès du ministère de l'Intérieur pour faire pression, pour faire pression sur l'inter-LGBT qui refusait de les faire défiler. Ils ont eu gain de cause puisque Bruno Retailleau a demandé aux organisateurs d'assurer la sécurité du collectif dans la manif, mais n'ont réussi à réunir qu'une quinzaine de personnes. Bon, vous autour de la table, Alexis, Zoé, Aglaé, vous étiez à la Pride. Quel regard un peu, chérie aussi, vous portez un peu sur tous ces différents débats? Vas-y, Aglaé.
Je n'étais pas à la Pride. Pour la première fois depuis que je suis peut-être en quatrième.
Ouais.
Mais, en fait, c'est comme tu disais, et comme moi je dis souvent, le problème avec la Pride, en fait, maintenant, il y a quand même des Prides radicales. Mm-hmm. Cette année, ça n'était pas le cas parce que pour les collectifs, c'est beaucoup d'organisations. Et moi, habituellement, maintenant, je vais à la Pride radicale parce qu'en fait, à la Pride, je m'y sens plus si bien. parce que déjà, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et que c'est vrai que moi, bah, quand je vais manifester, j'aime bien manifester avec des slogans. Voilà, désolé.
Non, j'ai l'ancienne. Mais
à l'ancienne, sans musique. C'est avec les personnes qui veulent de la musique. La Batucada. Ça, big up à la Batucada. Mais voilà, et donc c'est vrai que... Moi, j'ai des souvenirs de mes prides quand j'étais jeune, où c'était, vu que j'ai 50 ans, où en fait, il y avait une petite minute de silence, par exemple, pour les camps en Tchétchénie. Donc là, c'était assez intense. Donc voilà, minute de silence.
En fait, cette année, il y a quand même eu des minutes de silence.
Il y a eu 4 minutes.
4 minutes de silence. Ouais. Mais souvent, il y a une minute de silence et ensuite, ah, ah, follow. Et moi, je suis en mode, ah oui, oula, une minute, quoi, ouais. Chrono. Et c'est vrai que moi, ça me faisait un peu bizarre. Voilà, peut-être que je suis tout trop woke.
Toi, Alexis, qu'est-ce que t'en penses ?
Franchement, je ne pense pas que tu sois trop woke. Non, pas du tout. Non, on a besoin d'être radical aussi en ce moment, je pense. Mais je n'étais pas non plus à la Pride cette année. Oups.
On était deux avec Chérie.
Vraiment.
700 000 personnes, non mais n'importe quoi.
Mais pour la première fois aussi depuis que j'y vais. Voilà. Mais sinon, non, en vrai, on en parlait aussi tout à l'heure, moi je trouve aussi que c'est bien que c'est des prides qui soient moins radicales, du coup, disons, dans le sens où c'est peut-être quand même plus ouvert. Je sais pas si moi j'aurais fait, par exemple, ma première pride dans une pride radicale ça m'aurait intéressé d'y aller, etc. Donc finalement, le côté festif, etc., pourquoi pas, ça permet de ramener un peu des gens et que justement, au sein de la pride, ils voient quelques slogans un peu plus radicaux, etc.
Puis côté festif qui a été en plus assez limité par le fait qu'il n'y a plus de char maintenant.
Ouais,
la décision peut toujours contester, mais moi j'avoue que j'aime le calme. Et du coup, j'ai trouvé ça pas plus mal, mais voilà, c'est mon côté vieillot. Toi, chérie, qu'est-ce que tu penses aussi de cette peut-être repolitisation de l'intérêt LGBT, je sais pas, face à laquelle la droite a donc réagi en réalisant le rêve de l'extrême droite, supprimer la subvention. Est-ce que c'est un signe, un bon signe, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger aussi, d'une organisation qui est en train de réagir à un contexte global?
Je sais pas, je suis tellement perdu beaucoup d'espoir ces derniers mois. Honnêtement, je sais pas à quoi répondre à ça. Moi, là, cette Pride, ce qui m'a fait du bien, c'est le monde. Je crois que j'avais besoin. J'avais vraiment besoin de voir autant de monde. Et c'est tout, je pense. Ouais.
Bon. Zoé, tu veux rajouter quelque chose au mot de la fin ?
Moi, je n'étais pas à la Pride non plus, car... je travaillais.
Ça va.
Et même, tu m'as envoyé une photo depuis la médiathèque où tu travaillais avec quelqu'un qui était visiblement à la Pride, qui était venu se reposer à la médiathèque. Donc finalement, tu as un petit peu joué ce rôle militant d'accueillir les rescapés de la Pride.
Une médiathèque LGBT-friendly.
Eh bien, Zoé, tiens, justement, à 20h37 sur Radio Campus Paris, on parle de ton travail en médiathèque et tu nous parles justement d'un livre. Tout ça est très bien pensé.
Mais tout à fait. Parce qu'en décembre 2023, on avait reçu Camille Sirclude, qui est membre de la collective Bye Bye Binary. Collective belge, donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une collective qui rassemble plusieurs artistes, graphistes, chercheuses qui se sont rassemblées pour s'exercer ensemble à inventer des typographies post-binaires, donc soit des manières de faire transparaître dans les mots, dans la langue, d'autres genres, ou en tout cas d'aller un peu plus loin que choisir entre le féminin et le masculin, mais d'aérer un peu tout ça dans la langue. Donc, post-binaire et pas non-binaire, parce que souvent, les propositions typographiques ne cherchent pas justement à choisir entre le masculin et le féminin, mais entrelacent un peu les deux. Donc, par exemple, si je veux écrire le mot enseignant-enseignante, les personnes qui ont proposé des glyphes vont mettre le T un petit peu au-dessus entre les deux dernières lettres. Et comme ça, quand on lit dans notre tête le mot, on ne lit pas enseignante ou enseignant, mais on lit les deux en même temps. Donc évidemment, ça pose des questions de lisibilité et d'oralité. Mais en fait, c'est de plus en plus compréhensible quand on lit un texte qui est écrit et que on s'habitue tout simplement à voir ces typographies. Donc 2 ans après, je tombe en librairie sur un charmant livre, Rose Fluo, ce qui attire la bimbo au fond de moi, et je découvre avec une immense joie que c'est le premier numéro de la revue Bye Bye Binary. C'est une revue, mais ça fait la taille d'un livre de poche, en gros. Il y a plusieurs chapitres, et ça nous montre un peu l'avancée des recherches de la collective. qui appellent ça des nouvelles mues. Donc, on a une idée un peu plus concrète de leurs activités, puisqu'il y a pas mal de photos, comme c'était déjà le cas dans le livre de Camille Sierclude, pour toujours illustrer les ateliers qui elles font, et surtout bah, leurs travaux sur la typographie, parce que ça reste très visuel, ça reste vraiment de l'art presque. Donc, dans la revue, on a des récits expérimentaux, par exemple... J'ai mis un petit marque-page. On a une traduction post-binaire du conte Le pêcheur et le voyageur de Jeanne-Marie le prince de Beaumont. Voilà. C'est assez intéressant à lire, hein, vraiment.
Mais du coup, c'est quoi le pêcheur-euse et la voyageureuse ?
Eh bien, oui. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est assez difficile à prononcer parce que ça, c'est visuel, quoi. Ouais. Donc, en fait, dans ta tête, tu ne choisis pas. C'est vraiment... tu lis les deux en même temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a des petits mots croisés spécialement conçus pour les queeros. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours écrit avec beaucoup de pédagogie. Donc, c'est vraiment hyper agréable parce que même si on s'y connaît pas du tout en typographie, en orthographie, en graphisme, en fait, on comprend. Et ça peut paraître un peu complexe parce que, en fait, on n'a pas l'habitude de parler... de manière post-binaire. Aussi parce que le français est une langue extrêmement genrée, comme on le sait. Et à ce propos, par exemple, on nous raconte la tenue d'un atelier typographique qui a eu lieu par rapport à la langue portugaise. Et le groupe s'interroge si vous étiez un pronom. Lequel seriez-vous ?
C'est un test.
C'est un test. Donc, je vais vous lire un petit extrait. Donc, si vous étiez un pronom, lequel seriez-vous ? Alors que des inondations, conséquence du changement climatique, frappaient l'état du Rio Grande do Sul, j'ai fait aussi allemand LV2, à la pointe sud du Brésil, Huaré a créé un pronom épousant la forme d'un serpent et écrit une fiction dystopique, alors que Bruno a imaginé un pronom en forme d'équation mathématique dont la somme serait égale à l'infini. Les participants... ont aussi débattu de stratégie. Est-il plus efficace d'essayer de transformer les normes de la langue portugaise ou d'inventer des catégories, des termes et des symboles entièrement nouveaux ? Ils disent « Nous avons oscillé entre ces deux voies, mais je crois qu'aucune ne suffit à elle seule. » Beaucoup de leurs travaux faisaient non seulement référence à de nouvelles identités de genre, non binaires, mais aussi à de nouvelles façons d'être au monde. En explorant le graphisme queer et des polices de caractère non binaires, IEL concevait en réalité des mondes nouveaux. » Voilà. Donc, je crois que... Donc, je crois que c'est pour ça que, selon moi, les travaux de cette collective sont aussi enthousiasmants. C'est parce qu'en fait, IEL propose des choses concrètes, des nouveaux pronoms à utiliser, des manières un peu d'hybrider la langue, et pas seulement en français, donc comme on l'a vu, mais aussi dans d'autres langues. Et je trouve que c'est une victoire pour le lobby queer mondial. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à lire cette revue qui se lit vraiment très facilement. C'est comme un petit livre, c'est illustré avec pas mal de photos. On ne s'ennuie pas. Il y a des gros enjeux de lisibilité aussi pour les personnes malvoyantes ou dyslexiques. On a des tableaux avec les glyphes, donc les lettres qu'elles ont créées. Et c'est assez intéressant à voir. Voilà. Donc, pour moi, ça ouvre de réelles perspectives sur la dégenrisation de la langue.
Eh ben merci Zoé, tu nous rappelles les références de cette petite revue.
Oui, donc ça s'appelle Bye Bye Binary, imaginaire typographique post-binaire. C'est publié, je ne sais pas.
Bon.
C'est rose.
C'est rose.
Ça pète.
C'est
vraiment rose. Voilà.
Ça pète, voilà, tout simplement. Eh ben merci, et puis on n'hésite pas à aller aussi écouter ton entretien avec Camille Sierclude sur toutes les bonnes applications de podcast où on trouve le lobby.
Tout à fait. Out of time, step under the sun, carry your child, your child. But the look in your eyes keeps talking to me, 'cause your love would defy any adversity from the heart. From the heart, from the heart, from the heart. Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of pain. When humans got troubles, humans have problems instead. Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of pain for my mother. And
doesn't decrease the amount of pain. When humans got troubles, humans have problems instead. Sympathy for your friends doesn't decrease the amount of pain. For my mother and the others, and my mother and the others, and my mother.
Et la nouveauté de la semaine, c'est Mothers, le nouveau titre de Hot Bodies, nouveau projet musical de Gérald Kurdian. Hot Bodies qui était sur la scène de la Flèche d'Or pour notre émission spéciale le mois dernier. Émission à réécouter bientôt, car je ne l'ai toujours pas mise en podcast. Hot Bodies, ça c'est notre artiste du moment. Chérie, à quoi, toi, dans tes playlists du moment?
Lala Rami. Hades de Planète. Ah, allez, écoutez, Hades de Planète. Je suis un peu amoureuse.
C'est toi qui avais fait une chronique sur Hades de Planète,
non,
Aglaé.
C'est moi qui avais proposé qu'on la mette à la fin d'une interview.
Ah oui, voilà.
Voilà, j'adore.
Mon père.
Ouais. Katsai.
Bon, je crois qu'on peut écouter un peu quelques-unes de tes playlists sur ton profil Spotify. Moi, oui, j'ai enregistré une playlist de Chérie, ouais. Music for Hot People, quelque chose comme ça. Je me suis dit, c'est peut-être pour moi.
Allez. Looks like me.
20h47. Vous écoutez Le Lobby, le rendez-vous queer de Radio Campus Paris en direct de 20h à 21h tous les mardis de juillet, et bien, ou bien quand vous voulez, sur les applications de podcast. On a parlé de la Pride tout à l'heure et de ce backlash, de ce contexte de backlash. J'en ai parlé dans mon édito tout à l'heure, chérie, en tout début d'émission. Il y a cet article de Time Out qui parle du fait que les marques se désintéressent un peu du queer. Bon, l'article va donner par exemple l'exemple de l'enseigne de bière Bud Light qui en 2023 a vu ses ventes s'effondrer après une campagne avec Dylan Mulvaney. Vanek est une influenceuse transgenre, mais la mode n'est pas non plus épargnée par ce sujet. Et je me dis que sans doute tu as des choses à me dire là-dessus, puisque toi, la mode, le look, l'apparence, c'est aussi des choses qui sont très importantes, qui sont centrales dans ton projet.
Ouais, c'est très important. Et en vérité, on travaille aussi avec beaucoup, beaucoup de marques sur le projet. Oui, bah, ça fait un petit moment qu'on remarque déjà, on vous voit, et ça fait un petit moment qu'on en discute aussi dans le... Après, heureusement qu'il y a des... En fait, heureusement aujourd'hui qu'il y a aussi des petites marques qui prennent un peu le devant de la scène, qui sont plus d'ailleurs du tout des petites marques, mais je pense à Apprecia, je pense à Victor Insanto. Enfin, il y a vraiment un truc qui se passe aussi autour de ces personnes-là qui mettent, elles, en avant... Pour le coup, vraiment, la queerness.
Ils sont un peu une jeune génération, du coup,
oui,
tu dirais.
Oui, c'est des plus jeunes, ouais. Bah, ils ont notre âge, je pense, quand même. Mais non, les grandes maisons, c'est terminé. Ils ne veulent plus de nous, c'est fini.
Alors, il y a quand même, j'ai noté, des marques qui tiennent un peu leur ligne. On pense à Calvin Klein, là, qui propose cet été une campagne avec l'acteur Cooper Kutch, après une campagne qui avait enflammé Paris avec Bad Bunny. mais voilà, ça, c'est pas suffisant. Quel regard, toi, tu portes là-dessus?
Moi, j'ai peur... J'ai peur pour mes sœurs en vrai. Celles qui il y avait quelques années qu'elles étaient très bookées, les mannequins trans et tout ça. J'ai la sensation que là cette année, elles ont pas fait de gros défilés. J'ai peur la personne qui était à la tête de Mugler et qui elle employait énormément de personnes trans est partie. Même chez Balenciaga, on l'aime ou on l'aime pas, il y avait quand même beaucoup de queerness dans ses défilés. Il est parti. J'ai peur, franchement, honnêtement, j'ai peur pour le milieu de la mode. Après, on verra.
Voilà. Moi, j'y connais pas grand chose et on pouvait peut-être avoir l'impression que la mode était peut-être un monde un petit peu à part, qui avait peut-être été moins prise dans l'étau de ce backlash généralisé. Je sais pas si c'est vrai, mais ça a été vrai, mais en tout cas, c'est plus le cas aujourd'hui.
Ouais, non. Puis après, la mode a été quand même aussi, comme toutes les grandes entreprises, elle a pratiqué le pinkwashing as fuck. Encore aujourd'hui, le washing est très énervant. J'ai rien contre le t-shirt Protect the Dolls, mais je l'ai trop vu à la Pride sur des personnes cis. Et il veut plus rien dire pour moi, même ce slogan aujourd'hui qu'il est devenu aussi populaire. Enfin, payez-nous déjà et puis après on va.
Comment tu penses, toi, ton apparence et ton look, parce qu'il est assez particulier, assez remarquable, notamment sur les visuels de Vilaine Garçon, ta dernière chanson.
Je travaille très étroitement avec ma styliste qui est Nejma Musset, qui a une vision, elle, très comment dire, très intéressante pour moi de la mode. À un moment où elle est rentrée dans le projet, il y avait justement un truc aussi chez elle de nous, les grandes marques, on va pas essayer d'aller les chercher, on va plutôt travailler avec même des créateurs en école parce qu'ils sont tellement créatifs et ils sont pas dans cette industrie qu'il est un peu. Les étriques un peu malgré tout. Donc on est beaucoup allé chercher des étudiants, on est beaucoup allé chercher des jeunes créateurs pour voilà, je travaille avec Nejma, elle est formidable. Big up.
On l'embrasse. On est toujours avec Chérie dans le lobby de Radio Campus Paris à l'occasion de la sortie de sa chanson, donc Vilaine Garçon, un titre qui enflamme déjà votre été. Bah oui, si vous demandez pourquoi il fait si chaud dans toute l'Europe, ne cherchez pas, c'est sa faute.
C'est ma faute.
Et on poursuit notre émission avec toi, Aglaé, parce que certes, il fait très chaud, mais du coup, il va falloir qu'on s'occupe avec nos ventilos là.
Bah oui.
Et qu'est-ce qu'on fait?
Bah on va parler, comme je disais au début de l'émission, de pourquoi on aime et comme on déteste The Ultimatum Queer Love. Et quand je dis on, je dis je. Alors si comme moi les 36 degrés ressentis 40 vous font fondre le cerveau, vous avez peut-être vos petites techniques. Allez à Aqua Boulevard, gober des glaçons, ou alors accepter votre terrible sort et rester en slip devant votre ventilateur. Alors pour passer le temps, que faire? Pourquoi ne pas écouter cette petite voix malicieuse qui vous incite à regarder ce que le monde de l'audiovisuel a fait de mieux depuis The L Word? Et oui, les premiers épisodes de la saison 2 de The Ultimatum Queer Love sont sortis la semaine dernière. Merci. Alors pour résumer, 6 couples participent et dans chacun des couples, une des deux personnes a posé un ultimatum à l'autre. Soit tu te maries avec moi, soit c'est ciao. Voilà. Donc pour tester la force de leur lien, les couples se séparent temporairement, passent une semaine à se rencontrer les uns les autres et vivent avec une des autres participantes pendant 3 semaines. Donc,
horrible.
3 issues à la fin de l'émission. Soit on repart fiancé avec sa partenaire initiale, soit on repart seul.
Loser.
Ouais. Soit on repart fiancé à sa partenaire rencontrée il y a un mois.
Aïe, aïe, aïe.
Plot twist.
Pendant l'émission, donc. Et dans la version queer de The Ultimatum, parce qu'évidemment, il y a une version hétéro, qui d'ailleurs est apparemment très nulle, c'est les lesbiennes qui composent le casting. Super. Et donc, évidemment, c'est intense. Il y a des larmes, des surprises, de la drague. Et pour ajouter un peu de piment, certaines se découvrent polyamoureuses. Donc, imaginez l'épisode de réunion à la fin. Mais moi, ce qui m'interroge quand même, c'est pourquoi, malgré le côté un peu malsain de l'émission, on aime bien la regarder. Parce que c'est quand même des couples qui se brisent en 4K sur Netflix, à propos de mariage et d'engagement. Bah, personnellement, mon hypothèse, c'est que nous, les lesbiennes, on a tellement rien à se mettre sous la dent niveau série que dès qu'on nous propose quelque chose, on fonce. Voilà. Parce que Orange is the New Black, c'est sympa, mais ça s'est fini il y a 6 ans déjà. Comment te récupérer, Alex? C'est ma question. Alors oui, je suis prête à regarder 10 épisodes de The Ultimatum, même si c'est contre mes valeurs. Je suis contre le mariage, contre les ultimatums, et surtout contre ce verre argenté en plastique que la prod leur donne pour pas qu'on voit le nombre de caipirinha qu'elles s'enfilent. En même temps, heureusement que l'alcool est à volonté. Il y a la femme de ta vie qui t'a traîné dans un show Netflix qui menace de te quitter si tu veux pas te marier. Alors que quand même, en 2025, c'est OK de pas vouloir se marier, il faut le dire. Donc déjà, petit 1, pourquoi c'est OK? Parce que dans la France de Macron, il faut choisir entre se payer des steaks VG ou une bague de fiançailles. Et petit 2, parce que je ne pense pas que les militants et militantes du mariage pour tous se soient battus pour que Netflix capitalise sur nos dramas lesbiens. Parce que la question est là. Pourquoi il faudrait absolument se marier pour poursuivre une relation de plusieurs années? Alors avec les nouvelles candidates de la saison 2, on se rend compte qu'il y a derrière ces ultimatums des peurs, la peur de l'engagement ou pire, la peur de l'abandon. Alors justement, pourquoi ce ne serait pas à nous, les lesbiennes et la communauté LGBT en général, de penser des nouvelles manières de se promettre notre amour plutôt que par un contrat qui a quand même un lourd passé religieux et misogyne?
À méditer.
À méditer. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Aglaé. Bon, en tout cas, on peut se faire un avis et regarder The Ultimatum Queer Love sur Netflix. Toi, chérie, ça, t'es branchée télé-réalité de ce type, de cette académie.
Je suis pas branchée, je suis accro.
Aïe, aïe, aïe. Bah, voilà. Et tu es pris aussi dans cette injonction contradictoire fascination-répulsion.
Franchement, il y a de moins en moins de répulsion.
Alors, donne-nous des qu'est-ce qu'on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde. En vrai, il y a des trucs un peu queer dans les télé-réalités que tu regardes.
Non, pas du tout. Ouais. Rien. Non, moi j'ai un abonnement à You et je regarde absolument tout ce qui passe sur Bravo, Vanderpump Rules, toutes les Real Housewives, toutes ces conneries, Summer House.
Bon, moi en tout cas je peux vous recommander Are You The One, qui est une série, enfin un reality show tout à fait terrible, où à l'origine c'est je crois 8 hommes et 8 femmes qui se retrouvent dans une grande villa de riches et qui doivent trouver qui est leur perfect match, et donc ils doivent faire tout un tas de défis pour gagner des dates entre eux, parce que ça se gagne, et tous les 3 jours ils font une grande cérémonie des couples où ils doivent se mettre par couple, et un nombre de lumières s'allume devant eux en fonction du nombre de couples qui ont été réellement trouvés. Ils doivent trouver tous les couples en un certain nombre de soirées pour gagner une somme d'argent astronomique qu'ils se répartissent. Twist, plot twist. Non, c'est pas ça que je veux dire comme mot, mais vous avez compris. Dans la saison 8, ce ne sont que des personnes bisexuelles qui participent.
Oh my.
Et là, ça devient absolument croustillant. Voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est déjà presque la fin de cette émission. On fait notre petit agenda, notre petit moment agenda. Oui, je suis désolée, Aglaé, on n'a pas eu le temps de se demander.
Moi, je voulais demander
qu'est-ce
comment
qui voudra
fait,
sauver
quoi.
L'amour.
Voilà, comment on fait pour s'aimer sans mariage. C'est ça ma question.
Qu'est-ce qu'on fait d'ici la prochaine émission, la semaine prochaine, Aglaé? Qu'est-ce que tu nous recommandes? T'as rien noté?
Mais en fait, moi, j'ai séché, c'est Zoé qui a tout noté.
Ah d'accord, vas-y Zoé. Voilà,
tout noté. J'ai donc un événement demain, le 2 juillet au Cabaret des Merveilles. Il y a un karaoké queer, parce qu'on adore le karaoké.
Oui, on adore.
Voilà.
Bah super, merci. Cabaret des Merveilles dans le 5e arrondissement. Alexis, peut-être une petite chose à nous recommander. Tu fais peut-être un truc ce week-end. Peut-être que tu as envie que personne ne vienne.
Non, mais moi, j'ai dit que je vais être en touriste, donc c'est jusqu'au bout.
J'ai oublié de te prévenir aussi. Il faut que les auditoristes le sachent. C'est ma faute, en fait.
C'est vrai. Vous, shame.
Non, mais voilà, mais je ne t'en mets pas plus. Moi, je vous donne rendez-vous, par exemple, demain, aux Souffleuses, dans cette petite cave du 1er, je crois, ou 2e arrondissement. C'est pour un blind test pop stars animé par notre Lucie, la Lucie de l'émission, et son comparse, le Pet Castor. Et puis, rendez-vous aussi au TLM le 5 juillet, avec l'association Le Passage, qui est une asso qui essaye de créer un café associatif queer dans Paris, qu'on a reçu d'ailleurs, en fait, dans cette
Tout
émission
à fait.
Que tu as reçu, Zoé. Il y aura un marché de créatrices auquel participera notre ancienne réalisatrice Margot, avec les déperlantes qui a fait ce collier, par exemple,
c'est
je vous le
hyper
montre,
joli.
Qui avait cette boucle d'oreille.
Oh,
auditeurs qui ne voyaient pas cette émission, franchement, c'est très, très dommage que vous ne soyez pas là. Et puis voilà, il y aura aussi un, je crois que ça s'appelle un blind pitch ou un pitch date, un truc comme ça, où tu dois pitcher ta copine célibataire ou ton copain célibataire pour qu'elle reparte avec quelqu'un à la fin de la soirée. Il faut absolument que tu y ailles.
C'est d'être réalité.
C'est au TLM. Et ben voilà, merci beaucoup chérie.
Merci à
on
vous.
On écoute Vilaine Garçon absolument partout.
Oui, 100 fois par jour.
Et puis on se quitte avec Cumbia Queers, Chica del Calendario. C'est
oui,
comme ça qu'on dit, Aglaé?
Oui.
Allez, c'est parti. Del Calendario, le choix musical de l'équipe. Merci beaucoup équipe, merci beaucoup à Aglaé, en vrai c'est Aglaé qui a choisi. Merci Aglaé, merci Zoé, merci beaucoup Alexis. J'espère que cette première émission t'a plu.
Bah écoute, oui, c'était sympa.
On se retrouve la semaine prochaine.
Et j'espère bien, j'aurai travaillé cette fois.
Bon chéri, on ne te retrouve pas la semaine prochaine, on ne peut pas t'inviter toutes les semaines. Mais on était ravis de t'avoir avec nous. Merci beaucoup.
Merci
à Suzanne Cinca, à la réalisation. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Donc c'est toujours le mardi à 20h et quand vous voulez sur les applications de podcast. D'ici là, restez sur le 93.9 FM si vous nous écoutez en direct. Et puis à bientôt, bisous.